Bonjour Hugues Pouget, bonjour de Montargis.
Oui.
Vous avez une année absolument chargée. Vous êtes d'abord le président du championnat de France du dessert 2023.
Oui.
Où il y aura une année sans colorant, ni arôme, ni additif de synthèse, avec une finale en avril 2023 à Lille.
Absolument.
Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Ma pâtisserie authentique » avec 60 recettes et une préface de Catherine Deneuve.
Oui.
Qui est une de vos voisines, je crois, boulevard Rasselas.
Une voisine, amie.
Voilà. Pour laquelle vous avez créé en 2014 une bûche, rien que pour elle, autour du praliné, du café, avec des larmes de meringue sèche.
Absolument.
Et que vous ressortez cette année pour Noël, d'ailleurs.
Absolument.
Depuis 2010, vous êtes à la tête d'une marque, puisqu'en mai 2010, vous avez 33 ans, vous étiez chef pâtissier de Guy Savoie, et vous passez de la restauration, où le classique était la terrine de pamplemousse en gelée d'orange avec une sauce Earl Grey, 3 étoiles Michelin.
Vous êtes bien renseigné.
Et vous ouvrez la boutique Hugo et Victor Bouval Raspail avec une tarte pétale pamplemousse aux fruits crus, très rare à l'époque, toujours à la carte, d'Hugo et Victor avec sa boutique à Paris, une à la Celle Saint-Cloud, une dizaine entre le Japon et la Corée. Vos desserts de Hugo et Victor sont en vente à la Closerie des Lilas et au Café de Flore.
Notamment.
En 2012-2013, vous avez commencé des recherches dans l'idée de colorer les aliments à partir d'ingrédients naturels. C'était il y a 10 ans, vous étiez en avance. Vous achetez alors toutes les poudres possibles de fruits, de fleurs, d'épices, de légumes, et vous remplacez tous les colorants par des poudres végétales. Par exemple, la betterave fera le rouge, l'épinard fera le vert. Vous mettez au point 2 brevets, pour un chef pâtissier quand même. Et en 2020, vous reprenez la maison Mazet de Montargis, où on est là en ce moment, dans les appartements d'époque, absolument, dans le jus de cette maison née en 1636. Pourquoi au début, vous avez voulu être pâtissier?
En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des gâteaux avec mes parents. Maman n'achetait pas de biscuits, on faisait des gâteaux yaourts, on faisait des crêpes, on faisait des gaufres. Donc la pâtisserie, j'étais toujours versé. En fait, au départ, c'était pas vraiment la pâtisserie, mais c'était le monde du food, c'était la restauration, c'était l'hôtellerie. C'était vraiment travailler dans cet univers-là. Je savais pas ce que je voulais faire exactement, mais tout me plaisait dans ce métier.
Mais les parents étaient dans la restauration?
Pas du tout.
Ah, du tout.
Rien à voir.
Dans l'artisanat?
Non plus.
Enfin,
quand j'étais petit, maman travaillait pas. Elle nous a élevés avec mon frère et ma sœur. Enfin, mes frères et ma sœur. Mon père était enseignant dans le bâtiment. Mais par contre, mes parents cuisinaient très bien, faisaient le marché, me tiraient du lit le dimanche matin. Pour aller faire le marché. Et en fait, maman, après, a repris des études, est devenue tapissière et pâtissière. Et aujourd'hui, elle a son atelier de tapisserie, donc elle refait des canapés, des rideaux, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, elle est artisan. Mais... Non, ça allait, merci. Et en fait, j'avais des gens dans ma famille, il n'y avait personne dans le food, au sens large du terme. J'avais pas un oncle boucher ou charcutier, ça n'existait pas. Et il y avait encore moins d'entrepreneurs. Parce que du côté de mon père, plutôt des fonctionnaires.
Ouais.
Et du côté de ma mère, il y avait un ébéniste et un potier, une bibliothécaire, mais pas de. La pâtisserie, en fait, moi, j'adorais faire des gâteaux, j'adorais ça, mais sans le savoir, parce que pour moi, c'était normal de faire des gâteaux le mercredi après-midi, le week-end, des îles flottantes, des tartes à thym, des gâteaux yaourts. Et quand je suis rentré à l'école hôtelière, moi, j'avais un souci, tout me plaisait. J'allais en cuisine, ça me plaisait. J'allais en salle, ça me plaisait. Prenais des cours de sommellerie, ça me plaisait. Et c'est vrai qu'à travers les différents stages, et c'était très bien dans mon cursus de bac technique hôtelier, on fait des stages de tout. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé en pâtisserie et je me sentais bien. En fait, j'étais dans mon élément. Je touchais la pâte, les fruits. J'aimais la cuisine aussi, mais la pâtisserie, je me sentais encore mieux.
Ah.
Et en fait, souvent, je dis la pâtisserie est venue à moi parce que quand j'ai fait le championnat de France de dessert en 95 en junior, je fais ce concours de pâtisserie parce qu'il nous était en tant qu'élève, on avait l'opportunité de faire ce concours. Mais il y aurait eu un concours de cuisine, je l'aurais fait tout autant. Voilà, c'était le cours de pâtisserie. Et j'étais passionné de tout. Et c'est amusant parce que ma première saison. C'était dans un relais château qui s'appelait Les Roches. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait une étoile Guide Michelin à l'époque. Et je postule en cuisine, je commence en cuisine. Et au bout de 15 jours, le chef de cuisine nous dit « Ah, en pâtisserie, il y a besoin d'aller filer un coup de main. Qui veut ?» Je lève la main, je dis « Si vous voulez, moi, j'y vais. » Et puis, en fait, j'ai fait la saison. Et même en sortant de BTS, je postule au Carlton. Ouais. Et j'avais pas de... Je voulais rentrer au Carlton, même plutôt en salle au départ. Ça me plaisait bien d'être en salle aussi. Et puis le chef pâtissier que j'avais rencontré à la finale du Championnat de France des desserts, Gilles Falacci. Parce que j'avais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de portable, etc. Enfin, je dis à l'époque, j'ai 45 ans. Là, on parle, on est en 96. Ouais. Donc, il n'y avait pas les téléphones portables. J'avais qu'un numéro de fixe. C'était le chef pâtissier du Carlton. Donc, je l'appelle pendant le service. Je dis, on s'est rencontré au Championnat de France des desserts, à Paris.
Ouais.
Un an plus tôt.
Ouais.
Et je dis, voilà, je cherche un job, etc. Et puis, il me rappelle, il me dit, oh, il y a des places nulle part qu'en pâtisserie. Je dis, bon, OK, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je commence. Et puis, en fait, c'était un mec passionnant, passionné, et qui m'a vraiment extrêmement bienveillant, qui était, on va dire, une nouvelle génération de chefs.
Gilles Falacci.
Gilles Falacci.
À la Belle Otero.
À la Belle Otero. Et qui criait pas, qui était, même quand on déjeunait à midi au self du Carlton, il me disait, bon, alors, Hugues, comment on fait le sucre? Comment on fait la crème? Comment on fait le chocolat? Ah. Et puis, je me sentais tellement bien que, voilà, je suis pas sorti de ce monde-là.
Un peu votre mentor. Ou un oui. Super maître d'apprentissage.
Ouais, c'était, alors, j'étais pas apprenti parce que j'étais commis. Et puis, si, j'ai passé mon CAP là-bas. Et si, c'était à la fois un maître d'apprentissage, un mentor. En fait, c'était mon premier vrai chef pâtissier.
D'accord.
Et c'était un mec passionné, passionnant, très sympa. Et on a bien rigolé. Et puis, c'était au Carlton. J'étais au Carlton à Cannes. Vous imaginez, on vivait le festival de Cannes. On vivait tout ça. On avait des stars qui venaient. Alors, quand vous avez 19 ans et que vous êtes môme, vous êtes très fier de faire des gâteaux ou des desserts pour un tel, un tel, un tel. Voilà comment ma carrière a commencé.
Ensuite, votre parcours continue à la pâtisserie Mattiasi.
Oui, qui à l'époque était déjà la belle pâtisserie du Var et qui n'était pas encore relais dessert, mais on faisait déjà du très, très beau travail avec Denis. Et à l'époque, il y avait une petite équipe. Je crois qu'on était 5 ou 6 en pâtisserie. Il faisait déjà beaucoup de traiteurs. Il ne faisait pas de chocolat encore à l'époque. Et là, je découvre la pâtisserie boutique. Voilà, pendant un an.
L'année d'après, ou un peu plus tard, vous rejoignez la durée ouais, où là, vous apprenez d'après. La viennoiserie, la bonne
Je monte à Paris, comme on dit. Je monte à Paris.
Ouais.
Parce que je voulais vraiment travailler à Paris. D'ailleurs, l'anecdote, au même moment, on me propose une place au Louis XV à Monaco, où ce qui était vraiment à son apogée, et la durée. Et je venais de faire 2 ans au Carlton. Et je me dis, mais à Paris, il y a quand même toutes ces belles maisons, etc. Donc, je choisis de rejoindre la maison La Durée. À l'époque, il y avait encore le labo sur les Champs-Élysées. Et du coup, j'intègre l'équipe de Philippe Andrieux. Monsieur Hermé était parti depuis quelques mois seulement. Et je suis en...
97, là.
97-18.
90... Dans ces eaux-là.
99, février 99. On est en février 99 et j'arrive à Paris. Je commence à Paris en février 99 et j'ai, autour il y avait on va dire quelqu'un d'emblématique dans l'équipe de Pierre Hermé qui était Stéphane Van der Merch qui était le chef du Tour et qui a ouvert une pâtisserie depuis que vous connaissez sans doute qui est très célèbre pour ses Kouglof depuis.
Et l'année d'après, vous allez au Bristol.
Je vais au Bristol. En fait, quand je suis arrivé à Paris en 99, encore une fois, c'était pas aussi facile les outils informatiques. Donc, j'avais pris ma pile de CV. J'étais passé dans tous les palaces, toutes les pâtisseries. J'avais laissé mes CV. Et un an après, même pas une petite année après, Fréchon arrivé, Gilles Marchal arrivé, la directrice des ressources humaines m'appelle et me dit, voilà, on cherche à faire une nouvelle équipe. Votre CV est dans mes mains et en fait on me propose la place pour l'arrivée de Gilles Marchal et d'Éric Fréchon avec l'ambition qu'on connaît et la suite vous la connaissez le fabuleux travail qui a été fait donc j'ai participé à cette aventure c'était extraordinaire parce que il y avait beaucoup d'énergie l'ambition était clairement annoncée d'avoir 3 étoiles et voilà et à l'époque dans l'équipe de Gilles Marchal il y a Jean-Marie Hiblot, le regretté. Il y a Sébastien Bauer. Il y a Claire Damon.
Ah oui.
On était Fabrice Le Bourda, Nicolas Denis.
beaucoup qui sont devenus patrons de leur propre pâtisserie.
Une belle brochette.
Et là, on dit que vous apprenez le sens du palace, donc du service et de la rigueur, c'est ça?
Oui. Bah après, je l'avais déjà aussi au Carlton.
Oui, mais là, c'est...
C'est vrai, là, si on est à Paris, un palace parisien, c'est encore autre chose. Alors, je veux pas me faire d'ennemis avec mes amis du Sud.
Non, surtout pas vous, l'enfant de hier.
Voilà. C'est vrai qu'on apprend la rigueur extrême, on apprend un sens du service... hors normes, et puis voilà, c'était un tourbillon de travail fabuleux. Et avec Gilles, c'était aussi passionnant que difficile, parce que c'était, il y avait beaucoup de pression, mais c'était, j'en retiens que le meilleur.
Et ensuite, à 24 ans, c'est votre première place de chef pâtissier à Il Palazzo,
oui.
L'hôtel Normandie à Paris, où vous créez des instants chocolat, alors que c'était pas du tout la mode.
Non.
On parlait pas de chocolat, du coup.
En fait, je travaillais 2 ans au Bristol. C'était 2 ans très intenses, très, très intenses. Et au bout de 2 ans, j'étais un peu fatigué quand même, parce qu'on a vraiment, c'était rock'n'roll. Et en fait, on me propose une place de chef. Alors, j'étais chef de moi-même, hein, parce que j'étais tout seul. Et c'était un hôtel qui venait d'être rénové. Le restaurant venait d'être rénové. Voilà, il y avait de jolies ambitions. C'était dans Paris. Et puis, je prends ma première place de chef, et alors, mes collègues, je me souviens d'une phrase de Nicolas Denis qui me dit, ah, mais Hugues, t'es trop jeune pour devenir chef. Parce que j'avais tout juste 24 ans. Et je dis, écoute, si ça marche pas, je repartirai chef de partie dans un palace, hein. C'est pas très grave. Et du coup, ben, je commence à faire mes desserts, puisque le chef qui était là sur place me laissait assez libre dans mes création. Et puis, je me souviens, comme j'étais chef, je participais aux réunions avec la direction, et il y avait un dilemme. Le samedi midi, le restaurant ne fonctionnait pas, comme beaucoup de restaurants gastronomiques dans Paris. Le samedi midi, les gens vont faire leurs courses, on sort dîner le samedi soir, mais le samedi midi... Et en fait, je propose à la direction de faire comme un brunch goûté chocolaté, parce que pour ceux qui connaissent pas Paris et les palazzos, on est au bout de la rue Saint-Honoré, près de la place Colette, métro Palais-Royal, l'entrée du Louvre. Donc c'est un point de convergence assez énorme et qui est très bien placé. Et du coup, je propose à la direction d'essayer de faire un brunch chocolaté, un buffet que les gens viennent passer leur samedi après-midi pour... Alors aujourd'hui, aller dans un palace prendre un thé et un gâteau, c'est très à la mode.
Ouais.
Mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Et en fait, on fait l'inauguration. Je me souviens, Pierre Hamet était présent. J'étais très fier que Pierre Hamet soit là. L'hôtel avait pris une attachée de presse et tout à l'époque. Alors aujourd'hui, dire à un pâtissier qu'il a une attachée de presse, ça, c'est très... Alors c'est à la fois snob, mais très courant.
Ouais.
Mais à l'époque, on ne prenait pas d'attachée de presse pour parler du sucré. Et en fait, le directeur de l'hôtel dit à l'attachée de presse, on va faire un communiqué de presse, on va en parler. Donc on fait une inauguration. Donc il y a du monde. Le premier samedi, flop. Deuxième samedi, reflop. Et le troisième samedi, on a eu un papier, je crois, en même temps, dans Elle et le Pariscope à l'époque. Parce que aujourd'hui, il n'a plus l'aura d'alors, mais avant, on regardait le Pariscope pour savoir ce qu'on allait faire le week-end. Et en fait, là, c'était le succès absolu et ça a beaucoup eu de succès.
Le sens du palace, du service et de la rigueur, c'est finalement ce qui prévaut dans vos boutiques Hugo et Victor, non ?
En fait, quand je me suis installé, quand j'ai quitté Guy Savoy, moi, je voulais être un petit peu le maître de ma destinée. Je voulais ouvrir ma porte le matin. Mmh. Et en fait, je n'allais pas ouvrir de restaurant parce que je ne suis pas restaurateur. Je ne suis pas cuisinier. Je n'allais pas ouvrir de restaurant. Mais je voulais faire une boutique, mais avec le même état d'esprit qu'on pouvait avoir quand j'étais dans les grands hôtels ou chez Guy Savoy. C'est-à-dire... pas faire une pâtisserie de saison, mais une pâtisserie de marché. Un cuisinier, il y a des cèpes, il fait des cèpes. C'est la saison des Saint-Jacques, il fait des Saint-Jacques. C'est le gibier, il fait du gibier, etc. Et en fait, en pâtisserie, Pierre Hamet avait créé les collections, déjà. Et en fait, moi, je voulais aller plus loin que ça dans mon travail. C'est-à-dire que quand il y a des oranges sanguines, faire un dessert à l'orange sanguine. Quand il y a des figues fraîches de Solies noires, et ça, on peut pas tricher. Les figues de Solies, c'est que au mois du 20 août au 10 octobre. Hein. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je vais faire des desserts avec des fruits crus. Alors aujourd'hui, c'est assez commun, mais je pense qu'en 2010, à part la tarte aux fraises et la tarte aux framboises, c'était assez rare de faire des fruits crus, de l'agrume crue comme le pamplemousse, de la figue crue,
ouais,
etc. Ouais. Et c'est ce qui m'a plu dans mon approche, c'était de décortiquer les fruits et de les présenter en jus, en gelée, etc. Et en fait, j'ai voulu ouvrir une boutique comme un petit temple de la gourmandise, et mais qu'on accueille bien les gens, qu'ils s'y sentent bien, que ça soit joli et qu'il y ait certains codes du luxe, donc enfin du luxe. Code de la, en fait c'est pas du luxe, c'est pas le mot, mais de cette culture gastronomique française, vous savez, quand on arrive dans un restaurant de province, quand on arrive dans un palace, ouais. Parce que vous savez, bien accueillir, ça s'appelle pas du luxe, ça s'appelle être poli et bienveillant. Non, mais c'est ça d'abord, être...
Oui, mais quand on a une belle tenue, oui, comme chez voilà, vous, quand on a un beau cadre, parce que vous faites aussi... on est au 40 boulevard Raspail.
Oui, on est dans le 7e.
Vous avez le Lutetia pas loin, le Bon Marché pas loin. Vous faites comme un cabinet de curiosité.
Ça,
on est qu'en 2010. Hein.
Oui.
Et on voit un ingrédient et ses déclinaisons en pâtisserie, chocolat et en boisson, si les souvenirs sont bons.
Absolument.
Et il y a même un jour, Catherine Deneuve, qui traverse la rue pour venir vous voir.
Un jour, Catherine Deneuve, absolument. C'était le premier Noël. Et j'étais en boutique avec ma veste. Et du coup, c'est moi qui l'accueille. Alors, ça, c'était pas commandé. Hein. Moi, je savais pas qu'il allait y avoir Catherine Deneuve qui débarque. Et elle choisit ses bûches. C'était la première année en 2011. Puis en 2012, elle revient et elle retombe sur moi. Puis régulièrement, quand elle vient faire ses courses, on se croise, on se salue. Et en 2013, elle vient choisir ses bûches. Et cette année-là, j'avais pas fait de bûche au praliné. Elle me dit, bon alors, chef, comment ça se fait? Il n'y a pas de bûche au praliné. Pour moi, une bûche, c'est toujours au praliné. Elle dit, ah ben, écoutez, je suis confus. Il n'y a pas de bûche au praliné. Et puis, avec un peu d'audace et sans doute beaucoup de culot, je lui dis, si vous voulez, l'année prochaine, j'en fais une spécialement pour vous. Et puis, elle me regarde, elle me dit, oh ben, chiche. Et du coup, je la rappelle quelques mois plus tard. Et je dis, écoutez, vous m'aviez proposé, est-ce que ça vous dit toujours? Elle me dit, ah ben oui. Ça l'a beaucoup amusé et du coup notre relation de commerçant-client s'est un peu transformée autour de la gourmandise. Donc elle a très gentiment accepté en 2014 de co-signer cette bûche avec moi. Donc voilà, et en fait quand l'année passée je me suis lancé dans l'aventure du livre, donc c'est un livre qui s'est déroulé sur un an pour justement faire les photos. Donc on a fait quasiment une dizaine de séances photos pour faire au cœur de la saison de la cerise, au cœur de la saison de la figue, etc., d'être vraiment prêt. Et en fait, je voulais faire vraiment... Il y a un an de travail, donc il y a des photos de pièces montées, il y a des photos de galettes. C'est vraiment un an d'Hugo Victor de ma passion.
Saison par saison.
Saison par saison, mois après mois. Et en fait, quand à un certain moment, je me suis dit, tiens, qui pourrait préfacer mon livre? Et Carolina, mon épouse, m'a dit tout de go, elle me dit « demande à Catherine ». Et puis en plus, elle me dit « tu pourrais mettre ta bûche dedans ». Et en fait, ça faisait quelques années que Catherine Deneuve me disait « mais vous rééditez pas la bûche ». Il y avait des clients qui avaient un merveilleux souvenir. Et du coup, on a réédité. J'ai appelé Catherine
qui a laissé un joli mot manuscrit,
oui,
d'ailleurs.
Oui, absolument.
« Le cœur des choses, légèreté, surprise audacieuse, c'est un songe, une fantaisie pour combler et surprendre. C'est aussi une grande joie éphémère pour le meilleur, jamais le pire. Merci pour tout cela. »
C'est joli.
C'est très joli.
Et du coup, elle a accepté de manière très spontanée. Elle m'a dit, Hugues, je ne peux rien vous refuser.
Ah, c'est quoi votre principale qualité? C'est le contact avec les gens, alors?
Des qualités, j'espère que j'en ai deux, trois. Des qualités, j'aime beaucoup le rapport humain. J'aime beaucoup accueillir mes clients en boutique. Vous savez, il y a des pâtissiers qui sont au fin fond de leur labo, qui ne veulent pas voir leurs clients ou des commerçants. Et moi, j'aime être dans mon labo, j'aime voir mes pâtissiers, j'aime écrire mes recettes, mais moi, j'aime être aussi au contact des gens, voir leur sourire, voir leur regard quand ils posent leur regard sur mes gâteaux, voir la réaction des gens quand ils mangent. Vous voyez, là, mon épouse a ouvert un restaurant, d'ailleurs, on va déjeuner après là-bas. Et en fait, j'adore être en salle, voir la réaction des gens. Ça, c'est vraiment...
Ce serait votre principal défaut, là, d'être trop curieux des gens? Parce que vous passez, là, on entend de temps en temps votre téléphone qui vibrionne. C'est normal pour un PDG quand même de.
Un PDG, dis pas ce mot-là.
Directeur général?
Non.
Patron?
Patron, c'est bien, ouais.
Patron,
PDG,
ça
fait, j'ai l'impression que je suis le patron de Potel. Hein. Ça fait. Ouh. Même si sur les documents juridiques, il y a marqué PDG.
Non, vous êtes le président directeur gérant.
Voilà, je suis pâtissier. Souvent, j'ai l'habitude de dire, j'ai deux casquettes, celle de chef pâtissier et celle de chef d'entreprise.
Comment on fait pour concilier les deux? Il y a un moment où on coupe ou on a toujours les deux dans la tête?
Non, on a les deux dans la tête. Moi, je crée toujours mes gâteaux et mes chocolats, évidemment en collaboration avec mes équipes. J'ai, ouais. j'ai la chance, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, d'avoir des équipes très stables et qui sont maintenant à mes côtés depuis beaucoup d'années, notamment chez Hugo Victor. Et en fait, aujourd'hui, je m'épanouis autant en tant que chef pâtissier à écrire mes recettes qu'être chef d'entreprise et à animer l'entreprise. Et après, aujourd'hui, on est une entreprise structurée, il y a une comptable, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus organisé pour justement m'occuper de dynamiser l'entreprise, d'avoir des idées, d'aller sur des salons. Et voilà.
Mais en même temps, vous gérez votre personnel comme il faut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire vous les payez correctement.
Bon, on essaie du mieux qu'on peut, en tout cas.
Vous faites des jolis plannings ou jusqu'à refuser parfois des clients pour pas déstabiliser le planning.
Absolument.
Ça, vous êtes peut-être le seul ou un des rares.
Ou les gens le disent pas, mais nous, ça nous est arrivé 2-3 fois que ça soit côté chocolat ou côté pâtisserie pour pas que les gens fassent des heures à plus savoir qu'en faire et pour qu'ils aient les congés qu'ils avaient prévus de dire ou quitter cette commande. Malheureusement, on peut pas la faire. Et en fait, ça vous rapporte plus de faire ça que de refuser la commande parce que vos collaborateurs sont contents, restent, l'équipe est stable et du coup, on a une grande stabilité de l'équipe, donc on a une grande stabilité de la qualité et du coup, on peut amener l'équipe encore plus loin et de temps en temps, quand on sait qu'on doit mettre de l'énergie en s'organisant, les gens vous suivent encore plus loin que de faire un coup de fusil un jour donné.
Alors ça, c'est bien parce que vous, quand vous étiez jeune, c'était l'époque où vous aviez 3 demi-journées de repos hebdomadaires.
Ouais,
donc quand vous pointiez le matin et on vous disait non, aujourd'hui tu
peux rentrer chez toi. Je vous parle au Roche, mais je vous dis ça sans amertume, c'était à notre temps. Je me souviens donc je travaillais dans ce relais au château, j'étais pâtissier de saison. Et on me donnait une demi-journée par-ci, par-là. Donc une demi-journée, quand vous commenciez l'après-midi, on faisait commencer à midi. Hein. Vous faisiez midi, minuit, c'était votre demi-journée.
Ah.
Et ça m'est arrivé même d'arriver le matin à 6h du matin pour faire les petits déjeuners pour l'hôtel, pour faire les pancakes, les crêpes et les gaufres. Et le chef arrivait à 8h30 et il disait « finalement, tu pars en demi-journée parce qu'il n'y a pas grand monde à midi et tu reviens à 15h. » Et là, vous dites « super, ok, c'est ça ma demi-journée. » Et on le faisait, on se posait pas de questions. Alors oui, on avait peut-être un peu d'amertume dans la bouche, mais bon, on allait dormir et on revenait.
Et on faisait ses 70 heures par semaine.
Ouais, bien tapé, ouais.
Ah, et vraiment, beaucoup de choses ont changé.
Mais c'est bien, c'est bien. C'est l'air du temps, c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent, je discute avec beaucoup de copains, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là là, c'est plus comme c'était avant, mais mes grands-parents disaient ça avant, et j'imagine que les grands-parents de mes grands-parents disaient ça avant. Le monde évolue, la vie évolue, et c'est très bien qu'aujourd'hui qu'il y a un équilibre. Je pense que la vie est faite d'équilibre, et quand les choses sont déséquilibrées, ça va pas bien. Et voilà. Après, on est sur une ligne de crête, c'est pas facile parce que on voudrait mieux faire, même en faisant le mieux possible. Je suis sûr, il y a des collaborateurs qui aimerait bien faire encore plus, mais voilà. En tout cas, on a cet état d'esprit de faire le mieux possible.
Quel est votre biscuit préféré à faire ?
Mon biscuit ?
Ouais, celui que vous préférez faire.
Biscuit sec ou biscuit moelleux ?
Biscuit moelleux.
Le financier.
Ah, qui est important dans votre histoire.
Écoutez, vous savez, quand on ouvre une boutique, on ne sait pas ce qui va marcher. Quand on crée des gâteaux, la première fois, vous avez vos ambitions sur des produits, moins sur d'autres, mais vous savez pas ce que le client va accueillir. Regardez la tarte pamplemousse, quand je l'ai fait goûter la première fois à mes proches, on m'a dit « ouais, le pamplemousse, Hugues, c'est segmentant, c'est dangereux, pas tout le monde aime le pamplemousse ». C'est devenu notre spécialité. Pareil, on faisait plein de biscuits, plein de cakes, plein de madeleines de financiers. Puis un jour, le Figaro nous a primé 2 années d'affilée « meilleur financier de Paris ». Et du coup, du jour au lendemain, on en vendait quelques dizaines, on en vend quelques milliers aujourd'hui. Et du coup, on a élargi la gamme, on fait au praliné, on fait au chocolat, on fait aux fruits. Et c'est vrai qu'au Japon, on en vendait énormément, parce qu'en plus, les Japonais adorent les gâteaux moelleux. Donc du coup, je ne peux que dire le financier.
Le praliné est super important, on a vu ça dans les ateliers. Ouais. Vous préférez lequel ? Amande, noisette ou encore autre chose ?
Moi, j'ai un petit faible pour la noisette.
Ah.
Mais après,
pourquoi ? comme ça.
Ah non, c'est très subjectif. Non.
Ah, c'est au goût.
Ouais, non.
Le goût. Au travail, c'est pareil.
Ah, le travail, noisette ou praline, noisette ou amande, ou les deux mélangés. Les deux peuvent être intéressants. Après, en fait, moi, j'ai un problème. J'aime beaucoup de choses. J'aime tout. En fait, c'est comme dans mon métier. Des fois, on me dit, Hugues, c'est quoi ton truc préféré? Ben, moi, j'aime faire des glaces. J'aime faire du chocolat. Et d'ailleurs, ça se ressent même dans nos ventes parce que c'est assez équilibré entre le chocolat et la pâtisserie, entre la pâtisserie et les glaces. Tout est assez équilibré.
Ah, vous n'avez pas l'œil sur l'état des ventes et si on le vend plus, on le fait plus.
Ah si, non, mais si, évidemment, s'il y a des gâteaux qui trouvent pas leur succès, leur public, on arrête de le faire parce qu'on fabrique pas des gâteaux pour les jeter. Donc ça, évidemment, on sort des quand il y a des gâteaux qui ne retrouvent pas leur public ou leur gourmand. On enlève le gâteau de la carte, mais ça arrive assez rarement.
Ah. Et il y a aussi votre dernière trouvaille technique. Moi, je cherche, je vois dans votre histoire quand même le truc important. En 2012-2013, vous commencez à travailler sur les colorants naturels. Vous avez compris qu'on peut
les pas. Poudre végétale, parce que ça. Même les colorants dits naturels, il y a des saloperies dedans.
Alors, poudre végétale, vous appelez ça?
Bah des poudres végétales, donc de la poudre de fleurs, de fruits, de légumes ou des épices. Il n'y a que ça dedans, parce que même les colorants dits naturels, il y a des solvants, de la maltodextrine, des choses pas terribles.
Et dans ces poudres végétales, c'est pour vos macarons? C'est pour toute
en fait,
votre gamme?
En fait, il y a eu deux déclencheurs à ce travail, à cette genèse. C'était déjà, rapidement, on exporte des chocolats au Japon. Et en fait, les Japonais nous font une liste infinie de produits interdits, dont des colorants, les colorants azoïques. Donc on nous dit, pour le Japon, c'est les colorants non azoïques. Première année, deuxième année, puis surtout, quand vous passez les douanes japonaises, c'est passé au spectromètre. Je peux vous dire, moi, comme beaucoup de confrères, on a eu le trouillomètre à zéro, parce que quand vous passez les douanes avec plusieurs palettes de chocolat, vous dites, merde, si c'est bloqué, c'est un souci, quand même. Et puis, ça m'est arrivé qu'ils, de temps en temps, ils trouvent des traces, des micro-traces, parce que dans votre atelier, vous, de temps en temps, j'utilisais évidemment des colorants, puisque j'ai appris à travailler avec des colorants.
Voilà.
Et puis, souvenez-vous, dans les années 90, 95, même dans les années 2000, tout le monde était très émerveillé de voir des belles vitrines de macarons tricolorés, des glaçages tricolorés, mais...
Or, argent...
Le rouge vif, ou même du mettre du colorant rouge dans le glaçage noir pour qu'il soit plus noir, etc. Et je l'ai fait. Et j'étais content de le faire, puisque j'ai appris comme ça. Et c'est vrai que tous les ans, donc première année au Japon, ok, deuxième année, ok, troisième année, ok... On commence à vendre en Corée. En Corée aussi, la législation est là encore plus dure sur les colorants. Et puis un jour, en fait, j'ai eu comme un flash. Je me dis, donc je commence à me renseigner sur Internet. Alors moi, je revendique rien. Je suis pas médecin, je suis pas lobbyiste, je suis pas. Je lis quelques articles et c'était il y a 10 ans, on commençait à dire que quand même les nanoparticules, les additifs, c'était quand même pas terrible pour la santé. Ok. Et en fait, moi, je pense qu'on a nous, en tant que commerçants du food, on a une vraie responsabilité de faire manger les gens, quand même. Et alors, évidemment, il y a plein de gens qui disent, oh, mais c'est tellement infime, etc. Ok. Mais bon. Pour moi, personnellement, quand j'ai commencé à lire tout ça, je me suis dit, je vais faire quand même encore plus attention à ce que je mange. Avec mon épouse, on déjà mangeait pas beaucoup de viande, on mangeait que des produits bio, en tout cas, dans la plupart du temps, et en fait, en parallèle de ça, mon père est tombé malade. Avec un Alzheimer fulgurant. Et en fait, avec Carolina, on a commencé à lire des livres sur pourquoi Alzheimer, pourquoi certaines maladies. Mon épouse était migraineuse. Et en fait, on a vraiment lu certains livres américains, notamment le protocole de Walsh. Et qui vous explique tout le mécanisme qui se passe quand on mange certains ingrédients, d'autres pas et tout. Et pour moi, c'était une vraie prise de conscience parce que je me suis dit le Japon, pour X ou Y raison, ils veulent pas plein de
colorants. Ça facilite.
Ouais, qu'il n'y en ait pas.
Mais pour la santé,
il y a ce côté santé. Voilà, mon père malade, mon épouse certaines problématiques. Et je me dis. Je me bats toute l'année pour avoir le meilleur beurre, la meilleure crème, les meilleures figues de Solies, etc. Et sur mon glaçage, quand vous prenez un pot de colorant, vous n'avez pas envie de mettre votre doigt dedans. Et je me dis, avant, il n'y avait pas de colorant. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, donc 6-7 ans après, que j'ai découvert dans les archives les anciens livres de recettes, Tiens, j'aurais pu vous montrer. Mais il y a marqué, il n'y a pas d'arôme, il y a marqué huile essentielle. Quand il voulait colorer, c'était jus de framboise. Et en fait, j'ai rien inventé. J'ai juste repris des techniques d'alors pour colorer. Et j'ai accepté aussi de ne pas faire de macaron myrtille, parce que pour avoir la couleur myrtille, il faut mettre du colorant bleu. Ben, on ne fait pas de macaron myrtille, c'est pas grave. Et j'ai assumé ça. Donc voilà, avec un peu de maladresse au début, sans doute. Et voilà.
Genre, votre maladresse, et genre, vous l'avez ramené un peu au début, non ?
Non, j'ai fait une vidéo pour promouvoir mon travail.
Ah, qui a mal été perçu.
J'ai dit une phrase malheureuse. J'ai dit, tiens, toute la profession fait ça, mais je me mettais dedans. Je disais pas, moi je fais bien, les autres font pas bien. Je disais, moi je fais ça. J'ai un peu été maladroit et j'ai eu quelques...
Retour de bâton.
Vous savez, c'est la vie. Hein. Quand vous faites différent, vous êtes toujours. Vous savez, il y a que ceux qui font rien qui sont pas critiqués. Hein.
Ah. Ça, donc, c'est un peu votre devise, non ? Parce que vous faites toujours. Vous arrêtez pas. Bah, on a eu la tarte en part.
Ouais, en forme de triangle.
Dont une part bien précise permettait de faire un entremets avec plusieurs tartes client.
Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'était quand même innovant aussi. Hein.
Ouais. Et puis le moule wedding cake qu'on a développé avec Matfer, vous savez.
Ouais, il y a eu ça.
Il y a eu la bûche en forme d'enveloppe. On a développé les moules.
Après, vous avez fait des galettes, la galette Arlette. Ouais. C'est encore techniquement encore. Et justement, c'est quoi quelle est la technique qui vous épate ? Que grand merci, elle existe. Il y en a une qui vous est utile et que vous dites.
Non, mais plein. Enfin, que ce soit la pâte à choux, que ce soit le feuilletage, c'est des outils. Enfin, c'est des choses extraordinaires. C'est vrai qu'en ce moment, mon regard se porte sur la confiserie, mais la transformation du sucre, hein, ça a l'air tout bête, mais quand on fait bouillir du sucre avec un peu d'eau, il se passe plein de choses. Et Guy Savoie, je crois que d'ailleurs, c'est un peu la maxime de Guy Savoie, quand vous rentrez dans son restaurant, vous prenez des ingrédients chargés d'histoire, vous les mélangez ensemble et vous recréez notre histoire. Alors, je ne l'ai pas exact, je pense que vous la retrouverez facilement. Cette maxime de Guy Savoie, d'ailleurs, c'est en lettres rouges en rentrant dans son restaurant. Et je pense que c'est ça qui est fabuleux, c'est que vous prenez des ingrédients bruts, que ça soit un fruit, de la farine, du sucre, du beurre, et vous les mélangez ensemble et vous arrivez à faire un biscuit, une madeleine, vous arrivez à faire une tarte. Et c'est ça la magie de notre métier. Regardez, quand vous prenez du sucre issu de la betterave, ou de la sucre de canne, vous avez du sucre semoule sec, vous le faites fondre et vous pouvez faire de la nougatine comme on l'a vu tout à l'heure à l'atelier. Vous pouvez faire du nougat, vous pouvez faire tellement de choses. Et voilà. Et je pense que c'est la transformation des ingrédients, c'est un peu de l'alchimie quelque part. Et voilà, on est des alchimistes du goût moderne, nous tous les pâtissiers.
Vous êtes président du championnat de France du dessert que vous avez remporté. Oui. Vous étiez chef pâtissier 3 étoiles.
Oui.
Vous êtes inscrit.
Oui.
Il fallait y aller.
Oui.
Et vous avez gagné.
Oui.
C'était prévu.
Prévu que je gagne, non, parce que c'était pas téléphoné. En plus, Pierre Amé était le président du jury. Donc, cette année-là, en plus, c'était pour moi encore doublement, ça avait encore plus de valeur.
Ouais.
Écoutez, non, moi, j'ai découvert la pâtisserie en 95 à l'école hôtelière de Marseille en faisant ce concours. En 95, j'arrive en finale junior et ça m'avait émerveillé. Vraiment, ça m'avait émerveillé. Et je m'étais dit, je le représenterai en professionnel. Donc, je l'ai présenté chez Guy Savoie je l'ai gagné en 2003. Mais en 2002, je l'avais fait au Il Palazzo. Et en 2002, j'échoue aux sélections parisiennes. Parce que quand vous faites la finale à Paris, enfin, quand vous faites les sélections à Paris, je peux vous dire.
Il y a du monde.
C'est la Ligue des Champions déjà, hein, la sélection à Paris. Hein. Et je me souviens, je crois que c'était Yann Brice qui était parti devant moi en finale en 2002. Et j'étais extrêmement frustré. Et en fait, j'avais fait une déclinaison de dessert au chocolat. Et en fait, je me souviens Philippe Gobet qui avait été jury dans le
meilleur ouvrier de France,
meilleur cuisine,
ancien directeur.
Et il me dit, ton assiette est très très intéressante, mais dans l'assiette là, il y avait 4 trucs, dont un, ça c'était très très bon. Il me dit, il y a un truc à faire, je sais pas quoi. Entre temps, je deviens chef de Guy Savoie. Je demande à Monsieur Savoie de m'inscrire. Il me dit oui. Et puis surtout, j'ai remplacé Philippe Chapon, qui était l'ancien chef de Guy Savoie, pour la petite histoire.
Qui avait remporté
en 95, l'année où j'étais junior, pour la petite histoire.
Ouais.
Et donc, du coup, 9 ans après, 8 ans après, je me retrouve dans les sabots, les chaussures et le tablier de Chapon. Et je dis à Guy Savoy, sans doute avec beaucoup d'inconscience, est-ce que je peux m'inscrire au concours ? Il me dit oui. Donc je m'inscris. Et puis il me fout une paix royale. Et puis juste, c'était un déjeuner pendant le service. Il me dit oui, bien sûr, allez-y. Et puis le soir, il me dit au fait, il n'y a qu'une place possible. Je vous dis, il m'a pas mis la pression, mais juste cette phrase-là, ouais. Ça suffit pour me mettre beaucoup d'énergie. Et puis, en fait, au début, j'arrivais pas à sortir le dessert. Et en fait, je mets un dessert à la carte, qui c'était le palais au chocolat à la fève Tonka, fameux dessert de la sélection de l'année d'avant. En fait, c'était une ganache à base de Jean Dujain, sur un biscuit chocolat sans farine. Et en fait, je fais ce dessert-là à la carte. Et qui était très simple, hein, parce que c'est juste un petit palais, donc c'est qu'une ganache à base de Jean Dujain, infusée à la fève Tonka sur un biscuit chocolat sans farine, et il y avait un sorbet cacao. Il n'y a pas d'exploit technique dans ce dessert.
Ouais. Mais il y avait un ingrédient.
La fève Tonka.
Qu'on ne connaissait pas.
À l'époque, la fève Tonka, voilà. Et qui m'avait bien plu. Et puis, en fait, je mets ça à la carte et tous les clients trouvaient ça merveilleux. Et je me dis, bon, si ça plaît aux clients, peut-être que ça pourrait plaire au jury. Donc du coup, je me suis inscrit avec ce dessert. J'ai passé les sélections. Et d'ailleurs, j'ai eu un moment de faillite aux sélections parce que c'était un dessert rapide à faire. Et je crois que c'était 3 heures ou 4 heures, je me souviens plus. Et moi, au bout d'une heure, j'avais fini, quoi. Je me dis, oh merde, je me suis planté. J'aurais dû faire un truc plus compliqué, plus complexe. Ah. Je suis sélectionné, je vais en finale. Et en finale, il y avait le panier et il fallait refaire le dessert. Et c'est Pierre Hamet à l'époque. Pierre Hamet était président du jury. Et je fais la finale. Et puis du coup, j'ai eu du temps pour me consacrer à mon panier puisque mon dessert était assez facile. Et puis j'ai gagné. Et voilà.
Et aujourd'hui, que vous avez un peu de recul, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gagner ce championnat de France ?
À l'époque, Philippe Bertrand et Philippe Marrant m'avaient entraîné, donc je m'étais quand même, j'avais pris les choses au sérieux, je m'étais entraîné sérieusement. Non, je pense qu'il faut. Un jour, Guy Savoy m'a dit une phrase que j'ai retenue. Un jour, je lui présente un dessert à Guy Savoy, et puis il me regarde. Alors c'était un dessert au café, et puis il n'aime pas le café. Alors déjà, j'avais tout faux, mais je savais pas qu'à l'époque il aimait pas le café. Et c'était un palais chocolat glacé, de la meringue, le caramel au thym. Bref, c'était un peu une usine à gaz. Je présente l'assiette à Guy Savoy comme ça, et puis il me regarde, il fait, je lui dis rien et tout, et puis il prend pas la fourchette pour goûter ni la cuillère. Puis je dis ça au café, alors déjà mauvais point. Et puis derrière, je dis une phrase, je dis « Monsieur Savoy, il y a beaucoup de techniques. » Et il me dit « Ben voilà, vous avez rien compris. » Alors moi, j'avais 25 ans, 24 ans, et je dis « Ben, pardon. » Et vous savez, nous, les pâtissiers, on aime bien foutre de la technique de partout, blablabla. Et il me dit « Hugues, le client, il s'en fout de la technique, il veut juste que ça soit bon. » Et il me dit « La technique, il faut que ça serve le goût. Le reste, il s'en fout. » Quand le client, il s'en fout. Donc nous, on doit être technicien, on doit savoir bien cuire une meringue, bien cuire un gâteau, tout ça, ça sert. Et puis nos jeunes doivent maîtriser la technique. Mais le client, quand il mange un gâteau, il veut retenir que ça soit bon. Il s'en fout si vous avez mis un tralala à l'intérieur, un tralala au-dessus, sur les côtés. Et en fait, quand j'ai préparé le concours, je me suis dit, voilà, il faut qu'en bouche, il y ait le goût du reviens-y. En fait, c'est ça.
Ouais. Donc, en fait, il était 3 fois trop compliqué, mais dans le restaurant 3 étoiles, vous l'avez fait 3 fois plus simple, avec 3 fois plus de goût, vous l'avez gagné.
Ce fameux dessert que je vous ai présenté, du coup, il n'a jamais été à la carte, Guy Savoy, il n'a jamais goûté, je suis reparti avec mon assiette. Celui au café, au thym. Et en fait, le palais au chocolat, c'est pas aussi intellectuel que ça. Vous savez, quand on travaille en cuisine, c'est intuitif. Vous parlez, vous répondez. Évidemment, aujourd'hui, avec le recul, 20 ans après, on le décrypte et on le décortique. Ah ouais. Mais quand vous êtes dans une cuisine et que vous faites vos essais, Guy Savoy, vous dit ça, c'est trop compliqué, la technique, je m'en fous. Et vous dites, OK. Et puis, vous savez, quand vous travaillez dans un 3 étoiles qui fonctionne, Guy Savoy, c'était complet midi et soir, tout le temps, toute l'année. Et en fait, il faut être aussi malin dans son approche. Évidemment, il faut impressionner les clients, il faut qu'ils soient goûtus, bons, beaux, mais il faut que ce soit aussi efficace. Ah. Parce que, bon, à un moment, il faut que ce soit efficace. Et du coup, voilà, je l'avais pensé efficace. Efficace et bon. Et du coup, au concours, ben, ça a marché.
C'est le genre de choses que, aujourd'hui, avec le recul, vous demandez à vos collaborateurs, d'être efficace, pas trop de technique. En fait, on la voit tout pour le goût, en fait.
Tout pour le goût. Après, la technique, on en a besoin. Il ne faut pas la négliger. On a besoin de la technique. Mais de temps en temps, regardez, aujourd'hui, ma meilleure vente, c'est devenue la Charlotte chocolat vanille. Il n'y a pas d'exploit technique. C'est un bon biscuit cuillère, une bonne mousse au chocolat bien mousseuse, un insert vanille, des noix de pécan caramélisées. Et aujourd'hui, c'est devenu le gâteau d'Hugo Victor le plus vendu. Number one de number one. Et en fait, c'est bon, c'est une mousse, une crème, une bonne crème, etc. Donc, je dis pas ça à mes collaborateurs, mais quand... je vais vous donner un exemple aussi. On fait un opéra pour le Café de Flore, et aujourd'hui, le temps, c'est précieux. Et vous savez, un opéra, c'est biscuit, ganache, biscuit, crème au beurre, ganache, biscuit... Enfin, vous connaissez par cœur. Et puis, c'est du temps, c'est long. Et aujourd'hui, le temps, c'est précieux. Et mon temps est aussi précieux que chacune et chacun de mes collaborateurs. Et l'autre jour, je me suis dit... Et évidemment, le prix des gâteaux, dans le prix des gâteaux, il y a le temps, etc. Et l'autre jour, on a fait un opéra, on fait biscuit, ganache, biscuit imbibé, ganache, biscuit, crème au beurre et le glaçage. Du coup, il y a moins de couches, du coup, il y a moins d'étapes. On dénature pas le gâteau parce qu'il y a toujours la crème au beurre café, de la ganache au chocolat et une joconde imbibée au café. Mais c'est un peu plus rapide. Et aujourd'hui, le client, il trouve ça super bon. Ah. Donc, si le client trouve ça bon et que le client, ça fait cocher le client, et que nous, on prend ou des approches ou des techniques un peu différentes pour que ça soit plus... En fait, j'aime bien le mot plus efficient. C'est encore plus qu'efficace. Si on arrive à être plus efficient, les pâtissiers n'ont pas besoin de travailler 18 heures par jour et les clients, ils sont contents parce qu'il a un bon gâteau.
Est-ce qu'il y a des fautes techniques qui vous inspirent d'indulgence sur les jeunes, que font les jeunes? Vous savez, vous êtes plutôt indulgent ou plutôt sévère, en fait? C'est ça la question.
Je pense qu'on est indulgent parce qu'on est des artisans et qu'aujourd'hui j'ai eu ma période où j'ai crié comme tous les chefs, etc. Bon. J'ai eu cette période où j'étais des...
Au début.
Après j'ai pris des cours de coaching.
Très important parce que ça, on pense que c'est.
Mais vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire. En 2017, je supportais plus personne. Mais je me supportais même pas moi-même.
Ah, c'était limite burn-out.
Burn-out, je sais pas, mais j'étais...
Vous n'en pouviez plus.
J'avais ouvert Hugo Victor en 2010, je m'étais séparé de mon associé en 2014, j'avais eu lié à la séparation, évidemment, le bateau a tangué, j'ai perdu des collaborateurs, j'ai été pétri de passion et en même temps, ça avançait pas comme vous voulez. Donc, j'avais un mélange de frustration, de fatigue, de plein de choses. Et un jour, je déjeune avec un de mes amis chefs d'entreprise qui est pas dans ce secteur d'activité. Et puis, il me dit, Hugues, le problème, c'est pas tes collaborateurs, c'est toi. Et je sors de ce déjeuner, je dis, merde, je m'attendais pas à ça comme réponse. Ah. Et puis, il me dit, prends un coach. Un coach et tout. Et puis, j'appelle plein de copains chefs d'entreprise. Ils avaient tous des coachs. Et je dis, les gars, vous auriez pas pu me dire que vous aviez des coachs? Il me dit, tu nous as pas posé la question. Du coup, j'ai pris un coach qui s'appelle Cédric Lemnica et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que j'ai bien changé sur ma façon d'aborder les choses. Donc, évidemment, dans une entreprise, il faut des règles. Évidemment, il faut mettre des procédures. Évidemment, il y a des choses qu'il faut faire pour le bien de l'entreprise. Un bon gâteau, dans une entreprise, évidemment, le socle, c'est de faire plaisir à notre client. Mais derrière, il y a toute une organisation, il y a tout ce qui se voit pas, il y a la réalité économique des choses. Et donc, il faut de la rigueur pour ça aussi. Voilà, ça m'agace quand il y a un truc qui va pas, mais j'essaie de passer au-delà de ça et de dire, l'erreur nous permet d'être meilleur demain. Chaque dernière erreur, c'est une occasion de mieux faire la prochaine fois.
On y croit. Moi, j'y crois.
Non, mais vraiment, je dis ça sincèrement.
Non, mais c'est la seule façon.
Non, mais pendant des années, j'étais pas comme ça. Hein. Je peux vous dire, j'étais très con. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. Mais bon. J'ai changé parce que le monde change, parce qu'il faut garder une équipe, etc. Alors, de temps en temps, je suis comme tout le monde. Je peux m'agacer, je peux m'impatienter. C'est plus de l'impatience que de l'agace, que de la... Ouais, voilà.
Ouais. Et il vous reste du temps quand même pour faire quelque chose en dehors de la pâtisserie et de la chocolaterie?
Oui.
Vous faites quoi?
Ben déjà, je suis marié, j'ai deux beaux enfants, donc j'essaie de m'en occuper. Alors, je suis pas à 16 heures à la maison, donc je rentre un peu plus tard. J'essaie de leur accorder du temps le week-end, le dimanche. Et après, quand on part en vacances en famille. Et voilà, on fait du bateau. Moi, j'aime beaucoup faire du bateau. Donc, l'été, on fait du bateau.
C'est vrai que vous êtes un enfant de hier.
De hier, dans le Var. D'ailleurs, on ouvre une boutique dans le Var cette année.
Cette année
2022, là, le 26 novembre. 26 novembre. En fait, on ouvre une boutique dans une épicerie qui s'appelle les Cèpes d'Or. C'est énorme. C'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, qui fait du vin, du fromage, de la charcuterie. C'est un bar à vin. Enfin, c'est comme la grande épicerie, mais en plus petit. C'est un très, très beau lieu. Et il m'a proposé, il y a quelques années qu'on travaille ensemble, on ne savait pas trop comment. Et puis, du coup, quelque part, on s'associe, on ouvre une boutique Mazé, Hugo Victor et même Choupi le 26 novembre. Et c'est la première fois qu'on ouvre en province. Et vraiment, encore une fois, c'est une rencontre, une opportunité.
Quand on dit que ce métier est un métier de rencontre, c'est vrai. Hein.
Bah, comme beaucoup de métiers, je pense. Ouais, après, il faut être opportuniste, on aura des Mazés. Et je ne me suis pas levé un matin en disant « je veux racheter une entreprise historique ». Monsieur Dijon m'a appelé, mais il m'a dit « Hugues, je vends, est-ce que tu ne voudrais pas racheter ?» D'ailleurs, au début, j'ai dit non, mais alors de manière très spontanée. Puis quand j'ai visité, je me suis dit « tiens, il y a des trucs à faire sans doute ».
Ah, des trucs à faire. On ne dit rien pour l'instant, on va attendre 2023 où là, tout va arriver, je pense, notamment
en 2023,
avec PAC.
Il y a beaucoup de choses qui arrivent, oui.
Beaucoup de choses qui arrivent. Pour 2022, bon, bah, l'année est bien. Un livre, ma pâtisserie authentique, le championnat de France du dessert, votre adresse, première adresse en région.
Oui.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter autre chose?
Il y a Choupi aussi, le lancement de Choupi, vous oubliez.
Choupi pour Noël.
La licence Choupi, ouais, là, maintenant, en octobre aussi, depuis le 7 octobre.
Choupi, c'est encore un truc hallucinant grâce à l'artisanat de proximité.
C'est ça, et grâce
à... Il y a un client qui rentre chez vous... Et c'est l'auteur de Choupi, en fait.
Ouais, le dessinateur de Choupi, on sympathise. Et vous voyez, si j'avais été au fin fond de mon labo, je ne l'aurais pas croisé. Et du coup, on sympathise, et il voit que j'ai des enfants, il m'amène des bouquins, je lui dis merci, on boit un coup, on mange un gâteau, il vient régulièrement. Un jour, on se dit, tiens, pour Pâques, alors c'était Pâques 2016-15, je ne sais plus, on fait une petite collab de Choupi, c'était rigolo, en boutique, sympa. Et puis, il me dit, Hugues, j'ai des licences de tout ce que tu peux imaginer pour les enfants. Et puis, il me dit, ça te dirait d'avoir la licence en chocolat? Alors, j'ai dit, écoute, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Et puis après, l'idée, c'était de pas faire du Kinder, hein. On n'est pas là-dedans. Mais l'idée, c'est de faire des choses rigolotes pour faire plaisir aux enfants. Choupi s'appelait aux enfants. Et Thierry Courtin, ça lui faisait, il avait à cœur de faire ça avec un chef. Et du coup, on est plus cher que Kinder, c'est sûr. Mais on est moins cher que du Hugo Victor ou du Mazé. Et donc voilà, c'est un positionnement pour les enfants entre 4 et 6 ans. Ça a été fabriqué dans des conditions optimum. Le packaging est fabriqué en France. Enfin, il y a toute une éthique derrière cette collaboration. Et c'est vrai que c'est... Il y a Hugo Victor, il y a Mazé, maintenant il y a Choupi. Mais comment dire? C'est vrai, l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui... Moi, j'ai choisi que ma maison ne porte pas mon nom. Je rachète une maison. Et en fait... Mais pour moi, tout est pareil, en fait. Je me lève le matin, c'est pour faire plaisir aux gens, pour faire des gâteaux et des chocolats. C'est juste que là, j'ai des terrains d'expression différents. Donc, Choupi, c'est un terrain d'expression. Mazé, c'est un terrain d'expression. Hugo Victor est un terrain d'expression. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'avoir des terrains d'expression différents. Et après, c'est la vie. Enfin, moi, j'avais pas de plan de carrière en me disant, je vais racheter Mazé, je vais faire une licence en chocolat. C'est venu à moi, et on le fait. Et derrière moi, il y a toute une équipe qui se passionne pour tous ces sujets. J'ai Lancelot, mon bras droit, en pâtisserie. J'ai Anthony en chocolaterie. J'ai Diane qui anime tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde compliqué. Tout est compliqué. Faire l'essence, c'est compliqué. Prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est compliqué. Aller à Paris dans voiture, c'est compliqué. Tout est compliqué. Et en fait, moi, c'est un leitmotiv. Pour moi, je veux que... C'est peut-être de l'utopie, mais je veux que dans mon entreprise, on s'y sente bien, que ça soit simple. Alors, c'est pas un challenge facile, hein, parce qu'il faut arriver à ce que les collaborateurs adhèrent au projet. et à son état d'esprit, etc. Et encore une fois, tout en mélangeant la réalité économique, les règles, le code du travail, la qualité, tout ça. Donc, c'est quand même, quand vous mettez tout ça dans le shaker, c'est pas facile. Mais j'ai un espèce de rêve de qu'on se sente très bien dans mes entreprises et qu'on y travaille avec passion. Et voilà. Et aujourd'hui, on est dans le monde de la cancel culture. Moi, je mets un point d'honneur à essayer de remettre de la culture dans nos métiers. On écrit un livre, j'espère en écrire d'autres. J'ai racheté Mazé, qui est la plus ancienne confiserie française. Et tout ça, ça fait partie du patrimoine culturel, gastronomique français. Et j'en suis fier, voilà.
Et vous, voilà, un acteur de ce passé, présent, avenir.
Ouais, je fais partie de ce métier. J'ai 45 ans. J'ai un parcours traditionnel. J'ai fait l'école hôtelière.
Oui. Donc en fait, là, vous faites que commencer à vous exprimer vraiment. Presque. Non.
Presque. Mais c'est vrai. Mais vous savez quand vous avez
toutes les techniques, les rencontres et l'expérience.
Voilà, puis c'est une équipe, ça se construit, une entreprise. Et quand vous ouvrez une entreprise, évidemment, vous avez votre idéal. Mais avant l'idéal, il y a les marches.
Voilà.
Il y a les étages. Et donc, c'est vrai que là, j'ai 45 ans et les choses commencent à devenir très, très intéressantes et passionnantes. Et voilà, j'essaie de faire venir des talents à mes côtés. Et ouais, c'est comme une équipe de foot. Hein.
Et ça marche. Vous le dites pas parce que bon, mais on peut le dire. Nous, on a visité Mazé aujourd'hui, cette matinée. Mmh. On va continuer cet après-midi à Montargis. Merci de nous avoir reçus dans ce temple historique, 1636. Mmh. On est là dans les locaux où vivait la famille Mazé. C'est assez dingue. Hein. Merci beaucoup de ce cadeau. Hein.
Bah, avec plaisir, avec plaisir.